C'est sur un sujet autour de la famille que j'aimerais tourner notre message. Les flambeaux, l'école du dimanche, les préados, le groupe de jeunes, tout ça sont donc les activités organisées par les églises, nos églises, au service des familles. Car la transmission de la foi, selon la parole de Dieu, est la responsabilité principale de la famille. Encore une fois, toutes ces activités ont pleinement leur place. Elles vont donner un cadre tout à fait intéressant, comme celui que proposent les flambeaux. Elles vont donner des déclics, comme on l'a entendu souvent dans les témoignages de nos jeunes à travers les camps. Mais ce que nous voulons réfléchir ce matin, c'est la question de la famille comme lieu de transmission de la foi. Les parents ne peuvent pas tout simplement sous-traiter la transmission de la foi à l'Église, si je devais m'exprimer ainsi. La transmission de la foi, elle peut être vue sur deux plans. Il y a le contenu, l'enseignement de la Bible, les histoires, la théologie, et on pourrait réfléchir sur comment vivre un culte de famille. Ce serait très intéressant. Ce n'est pas le sujet de ce matin, peut-être on pourra le remettre à plus tard dans un autre cadre. C'est surtout l'autre plan sur lequel on va s'arrêter ce matin, que nous allons méditer parce qu'il est au cœur du texte que je vous propose de lire dans quelques instants. Celui qui touche aux effets de la foi dans un foyer. La transformation de vie, des attitudes renouvelées, des relations réconciliées. C'est au cœur du passage d'Éphésiens, et vous rappelez que nous sommes dans une série dans Éphésiens. On va lire dans quelques instants Éphésiens 6, versets 1 à 4. Et j'ai été encouragé quand j'ai vu que le projet des flambeaux, là, de cette présentation, allait coïncider avec ce moment où nous allions arriver dans ce beau passage d'Éphésiens 6 qui nous amène à justement creuser la question de la famille. Alors avant de lire le texte, peut-être il vaut la peine de rappeler en quelques mots où nous en sommes, parce que le dernier message sur Éphésiens datait quand même d'il y a au moins un mois. Un des grands buts de l'Épître aux Éphésiens, c'est de nous présenter le projet de Dieu pour son Église. L'Église, des ressources extraordinaires pour vivre une réalité bien ordinaire. On retrouve l'idée que l'Église nous donne des ressources pour vivre justement là où Dieu nous a placés. Et on va le voir qu'il nous le dit, c'est dans la partie pratique de l'Épître dans laquelle on s'est peu à peu aventuré à partir du chapitre 4. Comment vivre ces ressources extraordinaires dans la réalité de notre famille. Une partie pratique où la vie de l'Esprit en nous transforme radicalement nos actions et nos relations. Vous vous rappelez peut-être ce « soyez continuellement remplis de l'Esprit », un verset que l'on connaît bien, qui arrive à la fin du chapitre 5. Et à partir de ce « soyez continuellement remplis de l'Esprit », l'apôtre Paul nous donne des exemples concrets de comment vivre ça dans nos différentes sphères. La première sphère que nous avions vue, c'était celle du mariage, celle du couple, et celle que nous allons voir ce matin, donc, c'est celle des relations parents-enfants. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles en Éphésiens. Alors, on va lire 6, 1 à 4, mais de manière intentionnelle, je démarre un peu plus tôt, où on retrouve justement ce verset « Soyez remplis de l'Esprit » parce que au moment où on va aborder le passage sur la famille, il ne faudrait surtout pas se déconnecter de ce que Paul est en train de justement vouloir nous transmettre. Je vous invite donc à lire en Éphésiens 5, les versets 18 à 21, et ensuite on sautera, justement, on mettra de côté la partie sur le couple qu'on a déjà abordée pour aller à celle qui concerne la famille. Éphésiens 5, verset 18. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si vous avez bien suivi là où on en est dans le culte, ça c'est ce qu'on a fait dans la première partie. Mais Paul va tirer des conséquences maintenant de ce « soyez remplis de l'Esprit », non pas que pour la partie cultuelle, mais pour ce qui nous attend après l'Église, le mariage, la famille, le travail. Et donc, au verset 5, 21, il nous dit encore « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et au chapitre 6, il commence ainsi Vous, les enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors ce passage parle de la famille, j'en vois déjà s'agiter sur leur chaise, je pense que le repas va être animé ce midi, et on va beaucoup parler de famille ce matin. Mais pas que, parce que comme habituellement, la Bible ne nous donne pas des consignes morales, elle nous donne des conséquences de notre salut. Et quand Paul nous parle de la famille, c'est en lien avec des vérités spirituelles que nous trouvons dans le salut. Alors même si la question de la famille ne vous concerne pas au premier chef ce matin, pour une raison X ou Y, je vous encourage à être attentif parce que vous allez pouvoir déceler à différents endroits des principes, certes, qui s'appliquent à la famille, mais qui vous aident dans l'ensemble de votre vie chrétienne. Et si je devais résumer ce principe ce matin, c'est on va découvrir tout un tas de principes spirituels qui nous aident à apprendre toujours plus à dépendre de Dieu. Apprendre toujours plus à dépendre de Dieu. Alors la famille, c'est un sujet sensible et j'aimerais commencer par prier. Seigneur, je te remercie d'avoir placé ce sujet devant nous ce matin. Seigneur, j'ai conscience qu'on aborde un sujet qui peut-être va soulever des choses chez plusieurs d'entre nous. On vit peut-être des situations complexes en ce moment dans nos familles où ça va nous ramener à des situations qu'on a pu vivre aussi par le passé. Seigneur, je reconnais que ce sujet n'est pas non plus neutre pour ma propre famille qui est aussi là dans cette salle. Mais Seigneur, je te prie que ta grâce, ton réconfort nous vienne en aide et que ta parole nous aide à mieux connaître ton projet pour nos familles. En ton nom, Seigneur. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. C'est à peu près aussi difficile de commencer par ça que par femmes, soyez soumises à vos maris. Hein, ça, c'était la dernière fois, tous les mois, là, je viens avec un petit message, je me dis, bon, ça va pas être simple, cette histoire. Alors, il faut bien imaginer la scène, déjà, parce que là encore, le contexte va nous aider à voir les choses autrement. C'est dimanche, à Éphèse, une effervescence s'est emparée de l'assemblée locale. On a reçu une lettre de l'apôtre Paul qui va être lue pendant le culte. Et ce matin, alors on a un peu plus d'enfants que d'habitude, des ados, des pré-ados, hein, dans la salle, parce que l'école du dimanche est limitée, mais on imagine qu'à l'église d'Éphèse, en ce premier siècle de notre ère, il n'y a pas d'école du dimanche, et que les familles sont toutes réunies et vivent le culte ensemble. Et elles ont entendu toute la lettre de l'apôtre Paul, où Paul s'émerveille pendant 20 minutes de ces ressources spirituelles que nous avons en Christ. Et soudain, après donc ces 20 minutes, on l'entend dire « Soyez remplis de l'Esprit, vous soumettant les uns aux autres. Enfants, obéissez à vos parents. » Pas sûr que l'on se rende compte de ce qu'il se passe ici. Les enfants ne sont pas une pièce rapportée dans le culte. Des petits êtres à occuper pendant le moment cultuel. Ils font partie pleinement de l'Église. Et Paul s'adresse directement à eux. Je trouve ça formidable et ça nous ramène à nous aussi de la pratique de nos cultes, hein, où parfois on néglige aussi cet aspect-là, que nos enfants font partie du culte. Et la parole de Dieu s'adresse directement à eux. Alors les plus jeunes sont partis, mais il reste les plus anciens des enfants et tous ceux d'ailleurs qui ont encore le privilège d'avoir leurs parents en vie sont aussi encore des enfants. Et il y a donc un certain nombre de choses que la parole de Dieu peut nous dire à travers ce passage, même si bien sûr, en fonction du contexte, si on vit encore chez nos parents ou pas, les choses ne s'articulent pas exactement de la même manière. La première chose que l'on peut remarquer dans ce passage, c'est que Paul n'infantilise pas les enfants. Comme le reste des croyants, ils sont appelés à être remplis de l'Esprit. Je trouve ça formidable, hein ? On va souvent dire à nos enfants, est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur ? Pas trop une formule qu'on trouve dans la Bible. Elle est belle, elle a du sens, elle nous aide à comprendre la conversion, mais on peut mal la saisir. Là, l'idée, c'est est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu ? Et quelles conséquences Paul tire de ce « est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu ?» C'est vrai que la suite ne nous plaît pas beaucoup, mais c'est justement cette idée, cette centralité de l'obéissance. On aurait plutôt aimé, dans notre esprit moderne, que si Paul s'intéresse aux enfants, il le fasse sous l'angle du côté un peu plus fun, un peu plus développement personnel. Oui, les enfants ont un rôle à jouer. Et ce matin, on l'a encore vu à travers le fait qu'ils ont pu participer aussi à ce culte en prenant ce chant. On le vit dans certains cultes particuliers, dans nos cultes de Noël ou autres. Peut-être on ne le vit pas assez souvent. Et les enfants font partie de l'Église. Ils peuvent aussi, dans leurs propres mots, conduire l'Assemblée à louer Dieu. Dieu agit dans ta vie. Dès aujourd'hui, et ta responsabilité, quel que soit ton âge, c'est d'être acteur de ta foi. Si on avait invité Paul à venir au flambeau, à venir au préado, à venir au groupe de jeunes, nul doute qu'il n'aurait pas manqué de t'encourager à prendre des initiatives fun, peut-être défendre un copain harcelé à l'école, monter un projet solidaire, toutes ces choses qui sont enthousiasmantes, valorisantes, qui permettent peut-être d'avoir des likes sur ton compte Insta. Mais dans la substantifique moelle de ce que Paul veut transmettre aux jeunes, c'est un autre sujet qu'il pointe, l'obéissance. En fait, ce n'est pas un autre sujet, c'est le sujet, celui qui soutient tout le reste, celui qui, sans cela, j'ai envie de dire, tout le reste n'a pas de sens. De la même manière que Paul avait souligné le principe à suivre pour vivre des relations maritales renouvelées par l'Esprit, sans être exhaustif, il s'attache ici à souligner le principe qui va permettre aux familles de vivre des relations renouvelées par l'Esprit. Et pour vivre des relations familiales vivifiantes, la responsabilité, et c'est bien une responsabilité qui est donnée, hein, c'est pas « parents, faites obéir vos enfants ». C'est « enfants, obéissez à vos parents ». Vous avez une responsabilité dans la manière dont votre famille peut vivre le projet de Dieu pour nous. Alors, il suffit de faire un petit tour sur YouTube pour se rendre compte assez vite que je ne suis pas en terrain très populaire. Vous trouverez tout un tas de tutoriels pour savoir comment faire les meilleurs cupcake de la Terre, comment organiser l'anniversaire de sa best friend, mais vous ne trouverez pas de tutoriel fait pour savoir comment obéir à ses parents. D'ailleurs, si vous cherchez le tutoriel qui n'existe pas encore, vous avez peut-être là une petite piste. Ça, c'est un clin d'œil à ma famille où c'est un petit jeu en ce moment. Mais si ce tutoriel devait être créé, je ne crois pas qu'il s'intéresserait trop, comme la plupart des tutos, à comment faire, parce que c'est assez simple, à vrai dire, sur le comment. Mais peut-être plutôt sur le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots, dans quel but. Et ça tombe bien parce que c'est ce que Paul aborde ici. Il nous donne en fait trois raisons pour nous convaincre, pour convaincre les enfants, les ados, les pré-ados, les jeunes adultes, nous tous, à obéir à leurs parents. Trois raisons qui vont nous amener au but essentiel, au pourquoi, en deux mots. La première raison, j'aurais envie de dire, c'est la raison naturelle. Celle qui n'a rien à voir avec la foi, entre guillemets, parce que toujours tout a à voir avec la foi, mais celle qui découle du bon sens, celle dont toutes nos civilisations ont conscience. Je veux dire, toutes les civilisations enseignent, savent qu'il faut que les enfants obéissent aux parents. Tes parents prennent soin de toi. Il y a plein de choses que tu vois. Peut-être qu'ils cuisinent une fois par semaine ton plat préféré. Peut-être qu'ils ont réaménagé ta chambre pour qu'elle passe d'une chambre d'enfant à une chambre d'ado. Peut-être qu'ils se soucient de tes loisirs, qu'ils t'inscrivent dans cette activité qui te plaît. J'espère qu'ils passent du temps avec toi, qu'ils t'écoutent, qu'ils t'aident dans tes défis. Et puis il y a aussi tout ce que tu ne vois pas. Le paiement des factures, l'entretien de la voiture, les réparations de la maison. En fait, il se pourrait bien que s'ils n'étaient pas là, tu n'arriverais pas à te débrouiller 24 heures sans eux. Alors ça dépend de l'âge, hein. Plus on grandit, plus on va pouvoir pousser ces 24 heures un peu plus loin. C'est un peu comme sur Koh-Lanta, on va tenir une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais la fin est inéluctable, la sentence est irrévocable. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'eux. Ça, c'est la séquence un peu humour du tuto, hein. Tu fais intervenir ta petite vidéo de Koh-Lanta et là, tu as tout le monde dans la poche. La première raison que Paul souligne pour obéir à ses parents, c'est d'avoir un juste regard sur ta situation. Tu as besoin d'eux sur cette partie de ta vie. Il y a bien des choses avec lesquelles tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Il est logique de leur faire confiance et de leur obéir. Alors, si l'obéissance est un élément de la loi naturelle écrite dans le cœur de tout humain, c'est aussi une partie de la loi révélée par Moïse. C'est pourquoi Paul cite les 10 commandements dans ce passage. Et il cite, bien sûr, le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le 5e commandement. C'est intéressant parce qu'il y a un enjeu derrière le fait que ce soit le 5e. Quand on réfléchit les 10 commandements, on a tendance à les couper en deux. Il y a ceux qui parlent de notre relation de nous avec Dieu. Tu aimeras Dieu, tu ne te feras pas d'idole, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, tu respecteras le jour du sabbat. Et puis il y a ceux qui parlent de nos relations de nous avec les autres. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Et naturellement, on aurait tendance à mettre ce 5e commandement avec ceux qui parlent des relations avec les autres. Honore ton père et ta mère. Ça parle bien de nos relations horizontales, si je devais m'exprimer de manière géométrique. Mais ce n'est pas ainsi que les Juifs concevaient les choses. 5 commandements dans la première table de loi, 5 commandements dans la seconde. Ça aussi, c'est géométrique, c'est équilibré. Honore ton père et ta mère, dans la conception juive, faisait partie de la première table de la loi. Elle caractérise notre relation avec Dieu. Parce que durant notre enfance, quelque part, nos parents sont les représentants de Dieu pour nous. Ils ne sont pas Dieu. Ils sont bien imparfaits, tu es le premier pour le savoir. Tu es le premier à le savoir. Mais ils sont mandatés par lui pour manifester son autorité et son amour. Et on est déjà passé d'une obéissance qui pourrait être uniquement factuelle, hein, pour survivre tout à l'heure, à une obéissance respectueuse qui va intégrer cette notion d'amour. Il s'agit d'honorer, de respecter. Les réalités terrestres rejoignent les élans spirituels. C'est un peu le moment séquence émotion du tutoriel. Honorer mes parents en dit long sur mon respect et mon amour pour Dieu. Ce n'est pas dans la Bible, mais on pourrait adapter un autre verset biblique bien connu. Comment puis-je dire que j'honore Dieu que je ne vois pas, si je n'honore pas mes parents que je vois ? Alors bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, cette manière d'honorer mes parents va évoluer avec l'âge. Cela ne va pas se traduire de la même manière selon que tu as 5 ans, 15 ans, 30 ans, 60 ans. Les parents eux-mêmes sont invités à faire évoluer ce cadre. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Mais honorer ses parents reste une constante tout au long de notre vie. Car cette attitude est directement liée au respect que nous voulons avoir pour Dieu. Après la raison naturelle, après la raison créationnelle, voilà comment Dieu a prévu les choses, arrive la raison rédemptrice, celle qui a à voir avec l'Évangile, avec ce que Jésus apporte de nouveau. Et on la trouve dans ces trois petits mots, selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela indique déjà une petite nuance. Je suis appelé à obéir à mes parents, sauf, il y a une exception, si ce que mes parents me demandent de faire me conduit à pécher ouvertement contre Dieu. C'est la seule exception. Selon le Seigneur. Mais ce selon le Seigneur a autre chose à nous dire. N'oubliez pas que Paul tire les conséquences d'une vie remplie de l'Esprit. Désormais, en Jésus-Christ, toutes nos relations sont transformées. Même l'obéissance envers les parents a changé. Si tu crois en Jésus ce matin et que tu habites encore chez tes parents, tu n'es pas appelé à obéir à contre-cœur. Parce qu'il le faut bien. Parce que Dieu le demande. Mais avec joie et espérance. Avec joie parce que tu es assuré de faire la volonté de Dieu ainsi. Avec espérance parce qu'obéir à tes parents, c'est le meilleur antidote contre l'ennemi de ton âme. L'égocentrisme. Celui qui transforme nos désirs en petits dieux. Avec joie et espérance, c'est sans doute ainsi qu'il nous faut d'ailleurs comprendre. Vous savez, cette promesse qu'on a entendue tout à l'heure, un peu bizarre, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre ». Le propre de la Nouvelle Alliance par rapport à l'Ancienne, c'est de nous faire passer justement de vérité ou de bénédiction matérielle à des bénédictions spirituelles. Et l'idée là, c'est pas que nos jours puissent se compter le plus longtemps possible. En Jésus-Christ, c'est que chacun de nos jours compte en étant animé par la joie et l'espérance qui découlent de la vraie obéissance. Alors j'espère que vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un discours moraliste de parents désireux qu'après la prédication, leur enfant leur obéisse un peu plus, mais que nous sommes bel et bien en train de méditer ensemble sur la clé de voûte qui nous fait grandir chacun dans la foi. Et l'obéissance dans la période de l'enfance, c'est la clé pour justement apprendre à dépendre de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en quelque sorte, c'est l'idée que, et c'est la séquence Eureka, celle qui nous dit « ça y est, j'ai compris grâce à ce tuto », en étant fidèle dans les petites choses, Dieu pourra ensuite t'en confier des grandes. J'ai vu ça d'ailleurs tout à l'heure dans le projet pédagogique des flambeaux. Hein. Préparer nos jeunes à avoir des responsabilités. Et oui, bizarrement, même si c'est dur, même si c'est difficile, à travers toute cette obéissance qui t'est demandée dans le cadre familial, tu te prépares à quelque chose de grand. En tant qu'enfant, en apprenant à obéir à tes parents, tu te prépares à obéir, à dépendre de Dieu. Pour le jour où tu auras à prendre tes propres décisions. Voilà pourquoi les relations familiales apprennent aux enfants à respecter leurs parents et à grandir dans la dépendance de Dieu. C'est vrai pour les enfants, mais nous allons voir que c'est aussi vrai pour les parents. Ça y est, les enfants, vous pouvez respirez, votre tour est passé, c'est aux parents maintenant. Tout comme la soumission mutuelle s'était exprimée dans le cadre du couple avec des missions différentes, vous vous rappelez ? L'épouse soumise à l'autorité de son mari. Le mari soumis au principe de faire passer les intérêts de l'épouse avant les siens. Et si vous voulez creuser ce que je veux dire par là, je vous renvoie au message d'il y a un mois, je ne vais pas le refaire maintenant. Eh bien, de la même manière, dans le cadre familial, parents et enfants vont vivre aussi une sorte d'engrenage relationnel. Les rôles sont différents, hein, soyons clairs. Il est question de soumission mutuelle au début du passage. Il ne s'agit surtout pas que les parents obéissent aux enfants. Hein. C'est un des grands problèmes de notre société actuelle. La tyrannie, c'est pas que les enfants ont de l'autorité, mais les parents, en enlevant toute frustration, quelque part, ne vivent pas pleinement le rôle qu'ils devraient jouer avec leurs enfants. Je ne vais pas aborder ce sujet, fin de la parenthèse. Mais ce que je veux souligner, c'est que les parents sont en quelque sorte soumis à un processus qui les dépasse. Alors que les ados apprennent à moins dépendre de leurs parents pour plus dépendre de Dieu, cet engrenage va obliger les parents, de leur côté, aussi à grandir dans leur confiance en Dieu pour l'avenir de leur enfant. Après avoir eu le sentiment d'être toutes aux yeux de leurs enfants, vous vous rappelez, les couches, les nuits sans sommeil, le souci pour le petit rhume, et puis les premières années à l'école, et puis les fous rires passés sur le canapé, les vacances tous ensemble. Il va falloir apprendre que leur enfant ne leur appartient pas, et qu'il faut progressivement les amener à prendre leurs propres décisions. Je ne sais pas, en fait, s'il y a une école plus radicale que la parentalité pour grandir dans la dépendance de Dieu. Devoir faire confiance que Dieu gère et que nous ne gérons rien. Tout cela ne se fait pas sans douleur du côté des parents. Surtout que, bien souvent, nous avons du mal à évaluer où en est notre ado, notre jeune adulte, dans sa relation avec Dieu. Alors, dans le texte, vous l'avez noté, Paul s'adresse au papa. Probablement parce que Paul apporte cette question de l'éducation sous l'angle de l'autorité-soumission. Dans l'Empire romain où Paul a vécu, le pater, c'est le mot grec pour père, exerçait une autorité absolue sur la famille. En fait, il avait tous les droits, même celui de vendre ses enfants comme esclaves. Hein. C'était terrible. Apparemment, ça arrivait. Il n'y avait pas d'association pour défendre les droits de l'enfance à l'époque. Le pater avait la loi pour lui. Quel contraste avec ce que nous lisons ce matin. Hein. C'est ça le contexte des propos de Paul. Nous lisons ici que le père chrétien doit être maître de lui-même, bon, patient, éducateur. C'est donc sans doute le mauvais exercice de l'autorité qui est corrigé ici, plus que l'idée que seuls les papas seraient concernés par l'éducation des enfants. Et ce que je vous propose de retenir ce matin, c'est en fait de remplacer le mot « papa », comme le fait d'ailleurs la version TOB, par « parent », en ayant l'idée que, à chaque fois qu'on est confronté à l'exercice de l'autorité, et je pense qu'aujourd'hui les papas et les mamans le sont tout autant, eh bien, il nous faut nous laisser sonder par ce verset de l'apôtre Paul. Et j'aurais même envie de dire, chaque personne en position d'autorité devrait se laisser sonder par ce verset de l'apôtre Paul. Alors, le temps est bien avancé et on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail de ce qu'implique ce verset. Alors, je vous rassure, les enfants, les ados, ce n'est pas juste un tour de passe-passe pour que vous ayez passé un mauvais quart d'heure et que les parents s'en sortent à bon compte. En fait, j'ai un autre programme pour eux, mais ça, c'est pour la fin du message et je vais revenir dans quelques instants. Avant ça, je voudrais souligner le principe essentiel qu'il y a dans ce verset, sans justement pouvoir le détailler parce que c'est un sujet qui serait tellement vaste qu'il nous faudrait y passer plusieurs prédications. Qu'est-ce que Paul veut souligner ici? Il veut souligner le piège à éviter pour éduquer les enfants d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. De quelle manière les parents vont eux aussi respecter leurs enfants. Et le verset est celui-là. Père, donc je lis, on peut remplacer par parent, n'exaspérez pas, n'irritez pas vos enfants. Paul, a priori, n'était pas père, mais je trouve qu'il a le mot juste. N'irritez pas, n'exaspérez pas. Quel mot extraordinairement bien choisi. Alors, disons déjà ce que n'est pas cette exaspération. Il ne s'agit pas de renoncer à toute discipline, à toute situation où on enlèverait la frustration de nos enfants qui seraient alors exaspérés. Non, ce n'est pas ça le sujet, ici. Le sujet, la Bible est d'ailleurs très claire là-dessus, hein, cet aspect est indispensable pour éduquer nos enfants. Le sujet, ici, c'est celui plutôt de l'irritation qui s'installe. Et je vais vous donner quelques exemples hein, de ce que j'ai repéré comme étant des sujets pouvant irriter durablement nos enfants. Vous pourrez peut-être confirmer avec eux ce midi. Attention, danger, attitude irritante. Beaucoup de critiques et de condamnations, peu d'encouragement et de grâce. Des exigences fortes, mais bien peu de temps passé avec eux. Des attentes élevées, mais une absence d'écoute des besoins. Une discipline excessive, mais une incapacité à reconnaître nos propres torts. Des contradictions entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Allez, j'arrête la liste parce que j'aurai aussi mes ados ce midi avec moi. Je pense que je vais en prendre pour mon grade. Comme vous le voyez, il est en fait assez facile d'exaspérer et d'irriter nos enfants. Et si vous regardez la littérature de ce monde, vous trouverez tout un tas de trucs et astuces pour éviter certains des pièges que nous venons d'évoquer. Mais ce que nous avons besoin urgemment, c'est de changer fondamentalement notre regard sur l'éducation chrétienne. Qu'est-ce qui se cache derrière ce processus d'irritation dénoncé ici? Eh bien, je crois, même si on a du mal à se l'avouer, c'est que généralement, nous nous considérons comme propriétaires de nos enfants. Propriétaires insatisfaits. Ce qui va nous conduire à mettre le doigt dans cet engrenage infernal de l'autoritarisme, de l'irritabilité et tous ces mots qui vont avec. En ce sens, nous avons des relents du pater tout-puissant que j'ai décrit tout à l'heure, à notre manière moderne. À notre manière moderne. Et là aussi, chers parents, la sentence est irrévocable. Irritation grandissante dans le cœur de nos enfants. C'est pourquoi il nous faut arrêter de nous comporter en propriétaires et entrer dans la véritable mission de parents, selon le Seigneur. Non pas un propriétaire, mais un ambassadeur auprès de nos enfants, dans nos foyers, un ambassadeur de Dieu, co-ouvrier avec lui. Nous ne visons pas un changement de comportement vis-à-vis de nous. Et c'est souvent ce qui est en jeu dans toutes ces tensions que j'ai mis en avance tout à l'heure. Même si certainement ça devra se traduire d'une certaine manière par un changement de comportement. Mais ce n'est pas nous qui devons décider quel changement de comportement. Ce que nous visons, c'est une transformation du cœur vis-à-vis de Dieu. Être un berger pour leur cœur. Nous ne cherchons pas à fabriquer des bons petits Robins, des bons petits Weiss, des bons petits Mihailovitch. Nous sommes co-ouvriers de ce que Dieu veut accomplir en eux. Et les conséquences de ce que nous disons là sont considérables. Alors comme j'ai dit, malheureusement, je ne vais pas pouvoir les développer. Mais pour ceux qui se sentent concernés par le sujet que j'ai développé ce matin, on pourrait placer le mois de mai sous le signe d'une réflexion sur notre parentalité. Tout le monde n'est pas concerné. Mais pour ceux qui ont envie d'approfondir ce sujet, je vous propose, dans le mois qui vient, de vous envoyer, je pense que ça va être à peu près chaque 2 jours, une petite vidéo, alors je vous rassure, elle ne dure que 2 ou 3 minutes, sur cette question de la parentalité qui va développer un principe, alors pas un truc et astuce, hein, un principe spirituel qui découle un peu de cette idée, nous ne sommes pas propriétaires de nos enfants. Et ça va nous aider justement à essayer de nous imprégner de ça, parce que je suis bien conscient que ce n'est pas en un quart d'heure le dimanche matin qu'on va pouvoir vraiment essayer de grandir dans cette manière de voir les choses, et d'écouter justement, alors c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Être parent », je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, je voulais vous le présenter ce matin, mais je l'ai oublié chez moi, mais je vous mettrai le petit lien aussi avec les vidéos qui vont avec, si ce que dit l'auteur vous intéresse et vous dit « Ah, mais j'aimerais vraiment creuser avec lui ce qu'il est en train de dire », et à ce moment-là, vous pourrez donc lire ce livre. Donc vous aurez ça dans les groupes WhatsApp, je crois qu'à peu près tout le monde fait partie d'un groupe, si ce n'est pas le cas, venez me voir à la fin. Et puis, ce n'est pas votre sujet, la parentalité, à ce moment-là, vous laissez passer la vidéo, ce n'est pas grave. Mais voilà, je voulais vraiment offrir cette possibilité dans ce mois de mai d'approfondir ce sujet qui est vraiment un sujet important. Et encore une fois, ce n'est pas en un claquement de doigts que les choses peuvent progresser et changer dans nos vies. Vous avez vu, les jeunes, j'ai quand même été un peu conséquent là. J'ai donné un devoir un peu plus grand à vos parents qu'à vous. Allez, concluons. Les relations familiales apprennent aux enfants et aux parents à se respecter mutuellement et à grandir dans la dépendance de Dieu. Pour les enfants, cela passe par une obéissance joyeuse et volontaire, sachant que c'est là le meilleur apprentissage pour plus tard faire des choix dans la dépendance de Dieu. Pour les parents, cela passe par apprendre à ne pas irriter leurs enfants, en comprenant qu'ils ne leur appartiennent pas. Ils ne sont pas propriétaires, mais co-ouvriers de ce que Dieu veut accomplir dans la vie de ces adultes en devenir. C'est un apprentissage, souvent dans la souffrance, qui nous amène à comprendre toujours plus ce que cela signifie que de lâcher prise et de dépendre de Dieu. Que le Seigneur nous aide, chacun, chaque famille, à vivre ce beau projet familial. Soyons réalistes par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. C'est pourquoi, je vous le rappelle, il nous faut veiller continuellement à ce par quoi Paul a commencé. Être continuellement rempli de l'Esprit. Amen.